Le grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Njoli Essengé Ekeli Essengé Kelly. Voilà, j'ai toujours du mal à prononcer votre nom, professeur. Vous allez bien?
Ça va très bien.
Alors, Jacques Njoli est professeur d'université, docteur en droit, constitutionnaliste, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Actuellement, vous avez repris votre mandat au sein du Sénat.
Oui, conformément à l'article 110 de la Constitution. Mon mandat a été suspendu par mes activités au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, après la fin de cette mission, j'ai repris mon mandat au sein du Sénat.
Alors, vous l'avez compris, c'est lui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Professeur, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. On va commencer par une brève biographie de votre personne. On va faire un très grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Boindé le 26 octobre 1958.
Oui, je suis né à Boindé, dans la province constitutionnelle de la Tchouapa, province que je représente d'ailleurs au sein du Sénat.
La province de l'Équateur?
Non, de la Tchouapa.
On ne parle pas encore de la Tchouapa aujourd'hui, c'est encore l'Équateur.
Mais provisoirement, mais sur le plan constitutionnel, la Tchouapa existe comme province.
C'est là où vous avez grandi, professeur, vous avez passé votre enfance?
Oui, je suis né à Boindé, mais j'ai quitté Boindé très tôt pour venir suivre mon père qui était nommé magistrat à l'indépendance, donc en 1960.
Vous aviez 2 ans?
2 ans, oui. Et je suis arrivé à Mbandaka où je grandis et j'ai commencé mes études primaires à Mbandaka, à l'Athénée Royale.
Vous étiez quel genre d'enfant? Timide, turbulent?
Non, timide.
Timide.
Timide, plutôt accroché à maman.
Fils à maman. Les mamans adorent leurs fils, hein, il paraît.
Oui.
Les filles s'accrochent plus à leur papa et les hommes à leur maman.
Oui, il semble que c'est le complexe d'Oedipe. On est beaucoup plus attaché à sa mère. C'est pas pour autant. Mon père, je l'aimais beaucoup, mais j'étais plutôt beaucoup plus à côté de ma mère.
Et vous avez grandi dans quelles conditions?
Dans une famille calme, sereine, d'un magistrat, donc... plutôt sévère, pas du tout méchant, mais strict, ici dans cette ambiance.
Pourquoi vous vous attachiez trop à votre maman? Parce que papa était sévère, un peu strict?
Mais sa carrière d'administratif d'abord, et sa formation et surtout son statut de magistrat l'amenait à une certaine rigueur qui n'était pas toujours facile à vivre.
Alors, professeur Jacques Njoli, vous êtes licencié en droit, option droit public, avec la mention distinction à la faculté de droit au campus de Kinshasa. Vous l'avez obtenu en 1984. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir de faire le droit? C'est parce que papa était dans ce domaine que vous vous êtes dit, pourquoi ne pas faire comme lui?
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu cette influence, mais à l'époque, lorsqu'on arrivait en 6e année, on ne faisait pas soi-même son inscription. Hein. On vous donnait l'opportunité de vous inscrire, de faire un choix, le premier choix. Mon premier choix, c'était en fait les relations internationales. Le deuxième choix, c'était le droit. Et le troisième choix, c'était les sciences de l'information. Et j'étais retenu plutôt au niveau du deuxième choix, c'est-à-dire mon nom est sorti à la faculté de droit. Mais quand je suis allé à la faculté de droit, on m'a dit, en fait, le droit mène à tout, aussi bien au journalisme, si vous voulez l'être, qu'à la diplomatie. Et j'ai eu le temps de le vérifier, et c'était vrai, et le droit m'a
plu. Et vous ne regrettez pas d'avoir fait ça?
Ah non, j'adore le droit, c'est pourquoi je l'enseigne d'ailleurs.
Est-ce qu'il y avait un test qu'on organisait pour les étudiants qui devaient commencer l'université?
Non, à l'époque, lorsqu'on avait au moins 60%, il y avait une commission d'orientation au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur, et le nom par université ou par campus à l'époque sortait dans le journaux, donc était publié dans le journal. Après les examens d'État, on devait attendre maintenant l'orientation des diplômés par campus et par institut supérieur. Donc on n'allait pas nous-mêmes nous faire inscrire, on était inscrit automatiquement par le système de l'enseignement supérieur universitaire.
Après votre licence en droit public, vous êtes spécialisé toujours dans le domaine du droit. Vous avez approfondi vos recherches en droit.
Oui, puisque j'ai eu la chance d'être retenu assistant à la faculté de droit. Donc, j'étais orienté vers le droit public interne. Et je devais donc non simplement faire des recherches, mais commencer déjà à apprendre, à enseigner le droit et les droits publics approfondis.
Et vous l'avez commencé à l'université de Kinshasa ?
Oui, j'étais retenu assistant au département de droit public interne de l'université de Kinshasa. J'ai eu la chance d'être retenu par le professeur que j'aimais le plus, le professeur Kayimba Ntamba, qui m'a, depuis la deuxième année de graduat, adopté et qui m'a donc tenu par la main jusqu'à faire de moi son assistant.
Alors aujourd'hui, vous ne donnez pas cours seulement à l'université de Kinshasa ?
Non, je donne pas cours à l'université Sema de Kinshasa, je donne à l'université protestante au Congo, je donne à l'université libre de Kinshasa, je donne à l'université de Mbandaka. Partout je peux aller, si je peux avoir 2 minutes pour aller parler aux étudiants ou enseigner, pour moi c'est une passion.
Vous avez un autre diplôme d'études supérieures spécialisé en questions stratégiques et politiques des défenses.
Oui, lorsque je suis allé faire les études post-universitaires, c'est-à-dire le troisième cycle, j'ai fait d'abord un DEA, hein, diplôme d'études approfondies en droit, institutions politiques africaines et de pays de Méditerranée, dans une université au sud de la France qui s'appelle l'université, dans une belle ville qui s'appelle Perpignan. Il fait très chaud là-bas, c'est presque en Catalogne, donc à côté de l'Espagne. Mais après, je suis remonté sur Paris pour faire un DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisées, en études en politique de défense et questions stratégiques. Tout simplement parce que les questions stratégiques m'est passionné. Je dois vous dire que lorsque j'ai terminé à la faculté de droit, je n'étais pas simplement retenu assistant, mais je suis devenu magistrat militaire. Et à ce titre, j'ai eu à travailler au sein du ministère de la Défense et dans les autres services spécialisés. Et je voulais approfondir maintenant ces questions pratiques par des études approfondies en questions de défense et de type stratégique.
Alors, je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes docteur en droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, avec mention la plus grande distinction.
Oui, j'ai fait une thèse pour laquelle le jury m'a donné la mention la plus grande distinction. Félicitations.
Et en plus, ça veut dire que vous avez épaté le jury.
Ben, j'étais quand même assez un étudiant assez mûr. J'avais fait assez longtemps j'ai travaillé comme assistant et puis j'ai eu à travailler sur ces questions. Je les ai vécues dans ma chair, donc il m'était beaucoup plus facile d'aborder la thématique que j'ai choisie comme sujet de ma thèse.
Qu'est-ce que Jacques Njoli déteste dans sa vie ?
Je déteste la médiocrité et tout ce qui est opaque. Tout ce que je ne comprends pas, je déteste.
C'est quoi votre plat préféré ?
Ben, j'aime manger les haricots et du poisson, ainsi que du pondu, voilà.
Haricots, poisson et pondu sportif ?
Oui, j'aime bien jouer au football et je fais du karaté.
Vous faites toujours du karaté ?
Toujours.
Ah, hein. Et vous jouez aussi bien au foot ?
Ben ça dépend, hein. Maintenant c'est un peu plus difficile. J'ai joué quand même assez bien parce que j'ai eu à jouer même dans une équipe de, qu'on appelle division d'honneur, hein. J'ai joué à Mbandaka dans une équipe, puis dans les écoles où j'étais, aussi bien à la faculté des droits, j'ai joué dans l'équipe de qu'on appelle cassation, j'ai joué dans mon collège. Donc,
aujourd'hui vous pouvez tenir 90 minutes sur le terrain ?
Ah, ça c'est pas évident, mais... avec les systèmes de 20 repos, 20, on peut y arriver.
Marie est père de combien d'enfants ?
J'ai 8 gosses, hein, donc dont l'aîné a 25 ans et le plus petit a 6 ans.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, professeur Jacques Njoli, on va parler de vos activités professionnelles. Vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels.
Oui.
C'est déjà le début de la politique, hein ?
Tout à fait. Donc, en sortant de l'université, j'ai choisi d'être magistrat militaire. avant d'avoir essayé un peu de travailler dans le service d'études d'un syndicat. Et en allant dans l'armée, j'étais pris dans les cabinets du ministre de la Défense. Et c'est là où j'ai travaillé pendant longtemps.
Alors vous avez travaillé pas seulement au sein du ministère de la Défense, mais aussi à Affaires foncières, à la vice-primature et même à la primature. Et là, c'est entre 1987 et 1997.
Oui, j'ai eu la chance de rencontrer un homme merveilleux, extrêmement intelligent et humain, le général d'armée Likulia Bulongo, Lingbangi, qui était en même temps professeur de droit pénal à l'université. Donc c'est lui qui nous a amené au sein de son cabinet. Comme il a eu une très longue carrière politique et militaire, et brillante par ailleurs, donc chaque fois on a été à la Défense, on est allé aux affaires foncières, on est allé dans des services spécialisés, et puis on est rentré à la Défense, on est allé comme vice-premier ministre, il est devenu premier ministre. Et pendant tout cet itinéraire, eh bien, j'étais toujours avec lui, tantôt comme conseiller juridique.
C'était son homme de confiance, il vous faisait tellement confiance.
Oui, on était un peu comme ses fils, voilà.
Et en 97, lorsque l'AFDEL arrive au pouvoir, c'était quoi votre cas? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti en exil ou vous n'avez pas été inquiété?
Ben, j'étais inquiété, publiquement d'ailleurs, dans mon quartier. J'étais militaire, donc j'étais au camp Motel Fikine, c'est là où d'ailleurs je passais une grande partie de ma jeunesse et du début de ma carrière. Et après les bisbilles qu'il y a eu à l'entrée de l'AFDEL, donc je l'ai traversé à Brazzaville et dès là je suis allé en exil.
Où? C'est pas un secret?
C'est pas un secret. En fait, de l'exil, je suis allé faire ma thèse carrément en France. Et c'est là, donc, de 97 jusqu'en 2004 que je suis resté.
De 97 en 2004, vous étiez en Europe?
En Europe,
pour la
oui.
Thèse.
Oui, oui.
Mais comment vous êtes retrouvé dans le MLC?
L'MLC, c'est d'abord la rencontre avec Jean-Pierre, qui avait commencé le mouvement en 98. Mais comme j'étais en train de préparer ma thèse, je suis allé à plusieurs reprises sur le champ opérationnel à Bado. Je suis allé parfois aussi du côté de l'Est, où j'ai rencontré sur le champ le secrétaire général actuel Thomas Loire, qui était au RCD KML avec l'honorable Sessanga. Et j'étais en contact avec tous ces amis un peu de manière éloignée, parce que j'étais préoccupé d'abord par l'impératif de soutenir ma thèse. Et lorsque je suis rentré en 2003-2004, j'ai travaillé dans un cabinet d'un poste ministériel.
Et donc le contact avec le MLC était de loin?
Oui, je n'étais pas dans les équipes qui étaient là, je les côtoyais, j'étais tout le temps à Bado, mais beaucoup plus comme observateur que comme participant aux opérations. Mais j'ai gardé des très très bonnes relations avec l'équipe qui était là, et plus particulièrement avec le président Bemba, avec qui j'avais de relations fraternelles très poussées.
Vous avez adhéré au MLC par conviction ou parce que Jean-Pierre Bemba, qui est de votre province, vous a demandé de venir l'aider quand vous retrouvez dans ce parti?
Non, je suis entré au MLC par conviction, parce que si c'était par d'autres motivations, je serais entré plus tôt. Je vous dis que je suis allé à Guadolité à plusieurs reprises, comme je suis allé d'ailleurs à Bounia ou à Béni rencontrer le président Boussa, où j'étais en contact avec les amis qui étaient au RCD Goma. Donc j'étais en contact avec toutes ces équipes qui cherchaient à changer un peu les choses après l'entrée de l'AFDEL. Mais j'avais une préoccupation fondamentale. D'abord mes études, puis j'avais une famille qu'il fallait installer. Mais lorsque j'ai terminé ma thèse, donc je me suis dit, ben écoutez, maintenant je suis équipé pour participer à la reconstruction nationale.
Alors qu'est-ce qui ne vous plaisait pas avec le régime de l'AFDEL? Parce que ça faisait à peine une année que le régime était arrivé, et en 98, c'est des rébellions qui commencent et part et d'autre.
Ben écoutez, moi je n'ai même pas connu ces régimes, parce que ils sont entrés le 17 et moi je crois le 27 j'étais en exil. Donc
puisque vous dites que vous vouliez que les choses changent, vous n'avez pas connu les régimes, mais vous acceptez quand même de vous lancer d'adhérer au MLC pour renverser le régime de l'AFDEL.
Bon, c'était pas tellement ça, parce que la révolution de l'AFDEL, pour moi, ça a été une méprise parce que j'étais d'abord convaincu, vous savez, j'étais dans le très près j'entrais dans le service, je savais que c'était un mouvement qui était en fait servait de cheval de Troie à une invasion rwandaise et ougandaise. J'étais parmi le premier à interroger le premier prisonnier qu'on a arrêté à Luberizi ou à Uvira, et je savais que c'était un mouvement qui était essentiellement soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Et ça n'a pas traîné. Une année après, l'Ouganda et le Rwanda étaient en rupture avec l'AFDL. Donc on a compris que les forces extérieures qui avaient soutenu ces mouvements avaient un autre agenda et que finalement ils ne se sont pas attendus. Et c'était le début de la guerre avec les RCD. Et puis nous, avec l'MLC, Jean-Pierre a commencé des discussions politiques. Mais comme toujours, j'avais des appréhensions à rentrer au pays sur le dos, que ce soit du Rwanda ou de l'Ouganda. C'est un peu ça ma préoccupation.
Alors on va prendre quelqu'un qui est en ligne, quelqu'un avec qui vous avez commencé le combat au sein du MLC. Vous l'avez même cité tout à l'heure. Allô ?
Allô ?
Bonjour.
Bonjour madame.
Alors pour les auditeurs qui nous suivent, à qui avons-nous l'honneur ?
À Thomas Luaka, Losenjola, secrétaire général du mouvement de libération du Congo.
Thomas Luaka, nous sommes dans ce studio avec Jacques Njoli, qui fait partie du MLC, cadre du MLC, avec qui vous avez commencé la lutte au sein du MLC. Dites-nous, comment a été votre première rencontre hein ?
Ah, le sénateur Njoli, je l'ai rencontré pour la première fois à Paris. À Paris, après, je l'ai rencontré lorsque je suis descendu sur le terrain. Il m'a trouvé sur le terrain. Il faisait une tournée avec l'un de ses camarades français. Et donc, c'est là que je l'ai connu, on a sympathisé, on a échangé, et puis depuis ce temps-là, on a gardé de très bons rapports, jusqu'aujourd'hui, à ce que les rapports deviennent plus que fraternels.
Il est quel genre de personne ?
Bon, je suis un peu gêné de dire ça parce que je sais qu'il est en train de m'écouter, mais s'il faut les définir les sénateurs Njoli, moi je retiens 4 points en ce qui les caractérise. La première des choses, c'est un militant très engagé. Jacques Njoli croit foncièrement à la lutte du MLC. Donc, il est très engagé sur ces combats-là. Deuxième chose, c'est un intellectuel au vrai sens du mot. Parce que vous savez, chez nous, on confond souvent intellectuel et diplômé. Jacques Njoli, c'est vraiment un intellectuel, c'est-à-dire celui qui s'intéresse aux choses de l'esprit. Il se remet tout le temps en cause. Il lit beaucoup, donc un vrai intellectuel que je connais. Troisième élément qui le caractérise, dans les rapports avec les autres, c'est un monsieur qui est animé d'une grande courtoisie. Je n'ai jamais vu Jacques Njoli manquer d'égard ni à un camarade du parti, ni à quelqu'un d'autre. Et vous savez, les Congolais, lorsqu'il a une parcelle d'autorité, et souvent on a tendance à en abuser et à mépriser, même à écraser les autres sous son autorité. Mais j'ai vu Jacques Njoli au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune fonction, et au sommet de sa carrière, en particulier lorsqu'il était le numéro 2 de la CENI, il a toujours gardé des très bons rapports avec les gens parce qu'il respecte les autres. Et les autres lui rendent en retour, parce que lorsque vous respectez les gens, ils vous respectent en retour. Quatrième point, et je finirai par là, Jacques Njoli est celui qu'on peut qualifier de nationaliste, même si il n'a pas l'habitude d'utiliser ces termes-là qu'il trouve parfois galvaudés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit réellement à la nation congolaise, et que la mise en commun forcée des tribus, des ethnies que les Belges ont fait lorsqu'ils sont arrivés, aujourd'hui cette mise en commun a produit une nation, nous sommes devenus un peuple. Et dans les raisonnements de Jacques Njoli, lorsque vous parlez avec lui, il n'est plus dans la tribu, il n'est plus dans la province. C'est quelqu'un réellement qui réfléchit au niveau de la nation.
Alors, vous allez rester en ligne, Jacques Njoli, un mot sur ces témoignages, ces très bons témoignages qu'on vient de faire sur vous par Thomas Luaka.
D'abord, je vous remercie pour ces tableaux assez élogieux. Mais c'est vrai que j'ai rencontré le secrétaire général à Paris d'abord, puis comme je vous l'ai dit, sur le champ. Il était ministre de la Défense, portait les grades de colonel. Il était en train de former des hommes. On a sympathisé, et puis on est allé, je l'ai accompagné jusqu'à dans un camp où il était en train de former de jeunes militaires congolais dans le dur à Rwampara. Et puis on est resté pendant très longtemps à l'Est. Donc ce sont de personnes qui ont façonné le mouvement de résistance de notre pays. Beaucoup, beaucoup, énormément de souvenirs ensemble.
Je vous sens très ému, Jacques Njoli. Alors, Thomas Luaka, on ne va pas vous libérer directement. C'est vrai que c'est des qualités là que vous venez de nous donner sur la personne de Jacques Njoli. L'homme n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous aimeriez que Jacques Njoli change en lui ?
Ah oui, non, non, s'il y a quelque chose sur lequel il devrait faire beaucoup d'efforts, et je lui ai déjà fait la remarque, j'ai dit tout à l'heure que c'était un intellectuel. Alors souvent, Jacques Ndioli a du mal à adapter sa pensée aux gens qui n'ont pas son niveau intellectuel. Souvent, lorsque vous l'entendez parler, ça vole tellement haut que les communs des mortels ne peuvent pas suivre. Suivez ses interventions au Sénat, c'est d'une très grande facture lorsque vous suivez les débats à la télévision, mais je lui dis comme cadre du MLC, les messages doivent être transmis à toutes les couches de la société, donc il faut qu'il arrive un peu à diluer sa pensée, elle est trop dense pour être digérée par les communs des mortels. Donc c'est un effort qu'il devrait faire sur le plan intellectuel, dans la communication, essayer d'être les plus pas simplistes, les plus simples, les plus accessibles possibles.
Pour être capté par un grand nombre de gens.
Exactement.
Avant de vous libérer, c'est l'habitude dans cette émission, on va vous demander de lui dédier une chanson. Vous passez souvent le temps ensemble, vous connaissez peut-être ses goûts musicaux. Qu'est-ce que vous pouvez le dédier comme chanson?
Ah, comme chanson, sans réfléchir, comme ça, je demande la chanson Congo des Taboulé. Congo, Ondemboka, Congo. Je ne sais pas si vous voyez la chanson.
Oui, je vois la chanson.
Exactement, c'est la chanson que je lui dédie.
Parce que c'est un grand nationaliste.
Tout à fait.
Merci Thomas Loarka, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission.
Bonne émission.
Merci beaucoup. Alors, Congo de Taboulé, vous aimez bien?
Oui, effectivement. Hein. Mais comme a dit le secrétaire général, vous savez, dans mon parcours, moi j'ai quitté ma province d'origine en troisième année primaire. Et je suis allé dans la province orientale, plus pratiquement dans une ville qui s'appelle Bouta. Et c'est là où j'ai grandi. J'ai terminé l'école primaire là-bas à Bouta, et puis je suis venu à Kisangani, à ce qu'on appelle l'Institut Sainte-Marie, qui s'appelle aujourd'hui Tchololo. Donc c'est dans ces creuses d'itinérance politique et administrative que j'ai forgé ma personnalité et mes amitiés. Et finalement, lorsque je rentre à l'Équateur, c'est pour aller non pas rester trop longtemps en Bandaka, mais pour aller à Lissala, où on s'est retrouvé des élèves venus de plusieurs horizons. Et après, c'est l'université. Donc, je me sens congolais jusqu'au bout des ongles. Je me sens aussi heureux à Kolwezi qu'à Kikwit. Je me sens chez moi et cette unité est en moi et je crois que je suis devenu soldat pour ça, défendre cette nation et faire en sorte que cette nation soit le pivot du développement de l'Afrique.
Voilà, on va écouter la chanson de Taboulé, Congo, oui. Et puis on va se retrouver juste après pour la suite de notre entretien. Congo, Congo Ndemboka. Mboka ngo mokengeli koi Mboka ngo mokengeli leopa Mikolo to sekana kina mosolo ya mboka Kongo ikoki to fungwani misolelo to moni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni Ebongito sala, ebongito sala, moto nyoso ata mwana. Kongo ya mosolo, mpembe ya nzoku. Kongo ya bwanya, kasa ya mbila. Kongo ya makasi, moto ya nkoi. Sekana kina mosolo ya mboka Kongo ikoki Tofungwani misolelo Tomoni bozo banyo soto sali Boya kobongisa Kongo aveni ebongito sala Moto nyoso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo, Kongo ne mboka, Kongo, mboka ya bankoko. Kongo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango.
Congo, Boka ya kitoko. Congo, ya batu mayele, Congo, makopi kisayo.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Un grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Jacques Njoli Essengekeli. Il est docteur en droit, constitutionnaliste, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. En politique congolais actuellement, il a repris son siège de sénateur à la Chambre haute du Parlement. Alors, on était en train de parler de vos activités professionnelles. De 2004 à 2007, vous êtes directeur du cabinet adjoint, puis directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères et coopération étrangère. C'était qui à cette époque-là?
Raymond Ramazani Baya.
Du MLC.
Oui, voilà. C'est aussi un homme merveilleux, d'une intelligence pétillante. C'est un homme avec qui on a plaisir à travailler et à partager.
En 2007, Jacques Joly, vous êtes élu sénateur de la circonscription de la Tuapa.
Oui, c'était donc la fin de la transition et j'avais d'énormes craintes que nous puissions retomber dans une nouvelle forme des modèles de type autoritaire de pouvoir, et je croyais sincèrement qu'il fallait une opposition forte pour consolider la démocratie. Donc c'est à ce moment-là que je m'engage politiquement, fortement, au sein du parti. Et je suis élu sénateur sur la liste MLC de la province constitutionnelle de la Tuapa.
Et pourquoi vous n'êtes pas allé à l'Assemblée nationale?
Non, au départ, lorsqu'il y avait des élections législatives, ce n'était pas vraiment une préoccupation. Nous étions en train de suivre les élections présidentielles où Jean-Pierre était candidat. J'étais directeur de campagne adjoint et mon chef, si vous l'appelez ainsi, le ministre Ramazani, était candidat aux élections législatives à Kisangani. Donc je croyais que mon travail c'était d'abord d'organiser la campagne du président Bemba et du ministre Ramazani à Kisangani. Alors après les élections présidentielles et les élections législatives, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Allez, je continuais à être cette technocrate dans l'ombre ou ne fallait pas-t-il m'engager face à la nouvelle configuration de la scène politique? Et l'expérience que j'ai accumulée de l'agir politique congolais dans les cabinets m'a poussé à aller mettre mes mains dans le cambouis et je suis donc devenu candidat pour les sénatoriales.
Alors ça fait 7 ans pratiquement que vous êtes sénateur. Alors pendant que vous étiez sénateur, vous avez été élu vice-président de la Commission électorale nationale indépendante 2011 à 2013. C'est cette commission qui a organisé les élections de 2011 qui était quand même assez critiqué, hein, il faut le dire.
Ah oui, ça a été été une période assez difficile. Hein.
Voilà, parlons un peu de cette période. Comment vous avez vécu ce moment? Il y avait trop des critiques à votre endroit, hein, membre du MLC. Comment vous avez vécu ces moments?
Ça a été un moment très très difficile, très très difficile. D'abord parce que, en termes personnels, pour que je sois accepté comme membre de la CENI, ça a été une grande bagarre qui a duré plusieurs mois, de septembre 2010 jusqu'au mois de mars 2011. Donc, je n'étais pas du tout accepté par l'autre partie, et c'était vraiment par forcing que je suis arrivé. C'était des défis énormes, je dirais même des contraintes. La contrainte managériale, comment gérer collégialement une structure lorsque nous avons notre culture à nous qui est monolithique, c'était pas évident. Mais il y avait aussi des contraintes politiques énormes, comment organiser les élections sans consensus politique, c'était pas facile. Et les contraintes de temps. Comment organiser les élections en 6 mois? Nous sommes entrés en fonction le 3 mars 2011. Il fallait absolument organiser les élections avant la fin du mandat du nouveau président qui devait intervenir 3 mois avant. Donc en principe, en septembre 2011, on devait absolument avoir les élections. Des contraintes logistiques, des contraintes diplomatiques. En 2006, la communauté internationale était le pilote. C'est elle qui a organisé les élections. Sur les 90% de ressources, c'est la communauté internationale qui les a fournies. Nous, le Congo, nous avons amené 10%. Mais en 2011, il fallait chercher des ressources. Et la communauté internationale avait un rôle d'accompagnateur et de soutien. Donc, tous ces éléments ont fait que c'était très difficile. Mais il faut aussi avouer des faiblesses personnelles. Les élections, ce n'est pas une science exacte. Les élections, c'est une expérience. Et nous n'avions pas, à ce moment-là, très à la fois d'apprendre et d'agir. D'où,
vous étiez en train d'apprendre au même moment.
Oui.
Mais c'est... pourquoi avoir accepté le poste de vice-président?
Je ne regrette pas. C'est une expérience qui m'a énormément forgé. C'est que j'ai eu le temps d'apprendre et d'agir. Je suis entré en fonction le 3 mars 2011 et le 2 avril, on avait un calendrier. On s'est mis avec une volonté farouche pour organiser les élections au plus tard le 28 novembre 2011.
Est-ce que ce n'est pas à cause de tout ça? Parce que c'était une première expérience pour presque tous les membres de
absolument,
la
CENI. Absolument.
Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que ces élections-là étaient un peu, entre guillemets, chaotiques?
Oui, c'est vrai. L'organe de gestion des élections, le bureau, a une responsabilité énorme. Mais il faut aussi remettre cette organisation dans son contexte. Vous pouvez avoir une direction expérimentée, mais la question essentielle, c'est la confiance des acteurs à l'organe, à son indépendance, et la volonté des acteurs d'aller à des élections libres, transparentes. Donc, la commission ne crée pas la démocratie. La commission soutient. C'est un organe d'appui à la démocratie. Mais il faut avoir affaire avec des démocrates. Cette expérience que les 450 partis politiques que nous avons, la dimension démocratique est encore en construction.
Qu'est-ce que vous diriez de votre passage à la CENI?
Une expérience difficile mais très instructive.
Vous êtes fier d'avoir travaillé là-bas dans cette institution malgré les critiques?
J'ai donné le meilleur de moi-même. En 2 ans, de 2011 à 2013, mais surtout en 6 mois, nous avons pu organiser les élections, quoique critiquées. Mais on a pu le faire et c'était pas évident.
Et on dit même que vous vous êtes enrichi en étant vice-président de la CENI.
Ouais, j'adore ces...
Vous avez acheté des villas à Kinshasa.
Voilà, les fantasmes. Oui, c'est vrai. Quand j'entends parfois que j'ai reçu 5 millions, d'autres même disent 17 millions, eh bien, j'aurais bien heureux d'avoir 5 millions aujourd'hui. Non, effectivement, quand on travaille à ce niveau de responsabilité, j'ai d'abord le rang au moins de vice-ministre. Donc, pour un vice-ministre, je ne pouvais pas continuer à rester dans ma maison à Bandalungwa. Donc, avec un minimum d'organisation, on peut trouver autre chose. Mais, effectivement, il y a des fantasmes. Il faut laisser les gens fantasmer. C'est pas mal.
Vous ne voulez pas couper court à toutes les rumeurs?
Mais les rumeurs...
Enrichissement!
Mais les rumeurs, surtout si elles sont de rumeurs de caniveau, il faut les laisser s'étordre le cou par ceux-là même qui propagent ces rumeurs. Mais je suis au-dessus de tout cela.
Alors aujourd'hui, vous avez repris votre mandat de sénateur et vous êtes même vice-président de la commission défense et sécurité.
Oui, j'ai repris mon mandat de sénateur. Conformément à l'article 110 de la Constitution, et mes amis de la Commission, le jour où je suis rentré, m'ont dit nous préférons que tu reprennes ton poste de vice-président de la Commission. Voilà, je suis là.
Parce que vous maîtrisez bien les questions liées à la défense, à la sécurité.
Bon, je dirais pas que je maîtrise mieux, mais j'ai été pendant plus de 15 ans au sein d'un cabinet ministériel de la défense, auprès du secrétaire d'État ou du vice-premier ministre ministériel de France. J'ai occupé les mêmes fonctions dans d'autres structures plus spécialisées. J'enseigne le cours d'analyse stratégique et de planification. Donc, ce sont des thématiques et des problématiques qui m'en sont très proches. Et voilà, donc, je me sens à l'aise dans cette commission qui, par ailleurs, est présidée par un homme d'une très grande expérience, l'honorable Raymond Omba Benedjonga. Donc, je suis très bien dans cette commission.
En plus d'être sénateur, vous êtes aussi avocat près la Cour d'appel.
Oui, je suis avocat près la Cour d'appel de Matete.
Jacques Ndjoli, il y a beaucoup de critiques. Je sais que vous êtes de l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut dire du développement de la RDC aujourd'hui depuis 2006 Est-ce que le pays est en train de se développer? Est-ce qu'on est au statu quo? Est-ce qu'on stagne encore?
Il faut savoir d'abord d'où nous venons, où nous sommes et où nous devons aller. De 2003 à 2006, on s'est doté des nouveaux outils pour la construction de la démocratie. Et on a eu une première expérience électorale en 2006, qui a donné des institutions au niveau national et provincial. Il restait à asseoir cette démocratie par les élections locales. Ça ne s'est pas fait. On est resté dans un schéma inachevé. Donc, il y a eu comme des arriérés politiques. Et ces arriérés politiques ne seront pas résolus en 2011. Au contraire, l'entrée de l'UDPS sur la scène va encore créer une autre dynamique. Pourquoi ? Parce que la plupart de nos partis politiques ne sont pas des partis politiques qui sortent du creuset démocratique. L'UDPS, c'est une ancienne excroissance du MPR. Et les autres partis politiques, ce sont des excroissances de mouvements politico-militaires. Que ce soit le PPRD qui est une excroissance de l'AFDEL ou le MLC et les autres. Donc, il y a un problème de l'ancrage de la démocratie. Or, la démocratie, ce n'est pas simplement un ensemble de textes ou de normes. C'est d'abord de valeurs. Et ces valeurs peuvent alors vous donner une dynamique démocratique. Donc, on a eu une première expérience en 2006 qui a été retentée en 2011. On vient de parler des élections de 2011 que vous avez qualifiées de chaotiques. C'est ça, justement, la marche. Donc, sur le plan politique, je crois que nous sommes très avancés. J'ai toujours dit, on ne peut pas comparer la démocratie qu'il y a au Congo avec ce qui se passe au Rwanda, à ce qui se passe en Ouganda et même en face. Nous sommes avancés.
Il y a des améliorations.
Oui, nous sommes avancés. Nous sommes plus un État autoritaire classique. Nous sommes un État pré-démocratique qu'il faut maintenant, n'est-ce pas, c'est donner les outils, la volonté de construire, de consolider la démocratie. C'est pourquoi il faut rester prudent pour, n'est-ce pas, utiliser des outils qui nous font reculer. Par exemple, nous avions un suffrage universel pour les députés provinciaux. Nous n'allons pas rentrer dans les suffrages indirects. Donc, tous ces éléments-là sont les indicateurs sur lesquels nous devons travailler. Donc, sur le plan politique, on est avancé quand même. Sur le plan économique.
Économique.
Nous étions une économie totalement fragmentée. On a reconstruit l'économie. On parle de chiffres qui sont au vert. Mais donc il y a la croissance, mais il n'y a pas encore la transformation de l'économie. Nous sommes encore dans une économie de prédation. Plus d'un million de tonnes de cuivre exportées. Mais la situation du Katanga est très délicate avec tous ces pauvres qui se structurent en Katakatanga, c'est la région, c'est la pauvreté. Donc, l'économie doit encore se construire dans le réel. Et c'est ce combat que nous menons au Sénat.
C'est-à-dire qu'on doit ressentir ça dans le vécu quotidien
oui,
de la population.
Il faut une vision économique réelle. Il faut qu'il y ait un schéma de construction économique qui part de mines mais pas simplement vendre des mines en termes de rente, de prédation ou d'exportation. Il faut qu'une économie de transformation minière, il faut que la chaîne de valorisation de l'économie apparaisse. Avec le mine, nous sommes capables de faire du Congo la puissance industrielle de l'Afrique, le pivot du développement de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous exportons les concentrés, nous exportons de la matière brute. C'est inacceptable, c'est même dangereux. C'est la même chose pour les autres richesses dans la province orientale. On doit sentir l'impact de l'or sur l'économie de la province orientale. Tout comme dans les autres provinces. Les Kassai, c'est inadmissible que la capitale mondiale du diamant soit une des villes les plus pauvres, n'est-ce pas, de ce pays. La pauvreté qu'il y a à Mujimai, elle est choquante, révoltante. Donc, il faut arriver à structurer une économie au service de la nation, une économie au service de l'homme congolais. Depuis 50 ans, les Congolais n'ont pas encore perçu le bénéfice de son potentiel. On a parlé hier de l'énergie. Il est inadmissible qu'un pays qui a un potentiel de plus de 100 000 mégawatts ne puisse fournir que 1% d'électricité à sa population rurale et 30% à la population urbaine, ce qui nous donne un taux de pénétration d'électricité de 9%, un des taux le plus faible d'Afrique, alors que des pays où il n'y a même pas de barrage arrivent à des 40-50%. C'est donc cette rébellion de l'intelligence que nous devons faire, cette révolte scientifique que nous devons faire pour faire de notre pays non pas un pays éternellement potentiellement riche et totalement pauvre. Il faut que nous puissions casser ces paradoxes-là. Voilà le sens de notre engagement. Donc, il y a des choses qui se font, voilà, mais elles se font de manière trop lente et de manière trop rationnelle. Et surtout, ceux qui le font et qui ne le font pas encore bien soit un peu modeste et moins arrogant.
Alors, professeur Jacques Njoli, le temps passe tellement vite. Nous sommes à la fin de notre entretien. À tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiocapi.net, quel message vous pouvez leur transmettre?
Le message de l'espoir que au Congo, tout est encore possible. De l'échec, dans n'importe quelle situation, il est possible, n'est-ce pas, d'avancer et de faire le bon. Le pays comme l'Inde, ou comme la Chine, ou comme le Vietnam, ont pu faire de bon à moins de 10 ans. L'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid en 94. Et aujourd'hui, c'est une des grandes économies émergentes de l'Afrique. Donc, nous sommes capables de faire de ces pays un paradis où il faut beau vivre. Et que le budget de 3, 4 milliards et autres, et ces budgets de la honte et de la pauvreté, eh bien, nous devons nous battre pour que demain, nous puissions avoir des budgets de 50, 60, 70 millions, milliards de dollars pour que le Congo puisse offrir au moins à chaque Congolais un produit national brut d'habitant d'au moins 1000 dollars et pourquoi pas 3000 dollars.
Merci beaucoup, professeur Jacques Njoli. Je vous souhaite un bon dimanche et au plaisir de vous retrouver prochainement, peut-être dans le Dialogue entre Congolais.
Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir fait de moi un petit grand témoin. Tout le plaisir a été pour moi et merci encore.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Jacques Njoli Essengekeli, professeur d'université, ancien vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Actuellement, il est sénateur et homme politique. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en onde au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.